Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau rendez-vous avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour Sylviane et bonjour à toutes et à toutes et à tous.
Alors, vous avez choisi aujourd'hui comme sujet des deux émissions l'art du discours. C'est tout un programme, hein, la rhétorique comme technique, la rhétorique qui est aussi un enseignement. Donc, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à dire sur l'art du discours.
Oui, alors il faut discourir sur l'art du discours. Bon, mon thème est bien l'art du discours persuasif. Bon, toute la question est là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une parole en acte, celle de l'orateur ou du rhéteur. Il s'agit, parole en acte, d'une parole agissante, car la rhétorique se déploie toujours dans une institution où une décision est à prendre, et nous verrons comment le cadre de l'usage de la force de la rhétorique s'accomplit dans une société très particulière, qui est une société politiquement organisée, et d'abord dans la cité grecque, essentiellement Athènes.
Mais donc la démocratie,
oui, bien sûr.
La rhétorique dans la démocratie.
Oui, il n'y a pas de rhétorique s'il n'y a pas justement un libre usage de la parole qui vise à persuader ou à convaincre, les mots ne sont pas tout à fait de même valeur, un public. Alors nous verrons quelles sont les modulations de cette parole rhétorique et aussi à quelles institutions elle s'exerce. Alors tout d'abord, la rhétorique ou bien l'art oratoire. Donc le mot rhétorique vient du grec et il est apparenté au mot, pour son étymologie indo-européenne, au mot art oratoire. C'est la même racine et disons c'est la même visée de persuasion ou de conviction qui relève d'une technique. Alors c'est ça qui est tout à fait important. La rhétorique apparaît à l'âge classique de la Grèce et avec l'entrée en scène d'un personnage absolument fracassant qui s'appelle Gorgias de Leontini, en italien, à l'heure actuelle. Alors, Gorgias est né près de Syracuse, dans une ville, et ce qu'il concerne, c'est qu'il a mis au point la rhétorique, à la fois comme exercice de l'art oratoire. Il a été diplomate, hein. Il s'est rendu à Athènes précisément pour attirer la sympathie des Athéniens dans une querelle interne à la Sicile, hein, n'oublions pas, il est sicilien, j'aurais dû commencer par là. Et en même temps, lors de ses séjours à Athènes, lui qui est sicilien, eh bien, il essaie de faire prévaloir la technique rhétorique, puisque sa finalité est bien d'attirer à lui les jeunes gens d'Athènes, disons, qui ont une vocation à la vie politique, et précisément de leur enseigner l'art de bien parler, et surtout de bien parler pour séduire peut-être la foule. Hein. Donc nous voyons tout de suite que la rhétorique n'est pas simplement, encore une fois, une parole en acte, c'est aussi tout de suite quelque chose qui se présente avec la prétention d'être une science, et donc d'une science digne d'être enseignée. Or, vous avez dit une technique, il se trouve que les philosophes qui vont objecter à l'espace, je dirais, intellectuel de la rhétorique, vont dire, Platon le premier, en tout cas Platon, que la rhétorique n'est pas une science, et d'une certaine manière, on peut le justifier pas forcément de manière négative, mais qu'elle est un art. Hein. Techné veut dire en grec l'art. Alors l'art suppose une méthode d'enseignement relativement rigoureuse, relativement déterminée. Hein.
Mais je pense que Gorgias aussi cherchait peut-être à se faire une clientèle en venant,
oui, tout à, fait.
En venant
tout à, fait.
À Athènes.
Tout à fait, c'est-à-dire que la rhétorique, c'est indissociable, est à la fois une pratique discursive, hein, passez-moi l'expression, une pratique du discours, et en même temps, elle a une prétention à, comment dire, à rendre compte de la manière la plus rationnelle possible de ses effets. Parce que, effectivement, c'est un discours essentiellement performatif. C'est un discours qui vise, j'ai insisté dès le début, qui vise à produire un effet. Alors, cet effet consiste à persuader, à faire croire. Alors, quand on fait appel à la persuasion, que met-on en branle ? Est-ce qu'on met en branle simplement une argumentation ? Ou, et quelle argumentation ? Ou est-ce qu'on met en branle d'autres, d'autres éléments qui sont par exemple la personnalité de l'orateur et qui sont par exemple l'appel de l'orateur aux passions ou disons aux émotions du public. Donc nous voyons bien comment la rhétorique suppose à la fois une pratique de l'argumentation, alors peut-être plus de l'argumentation que de la démonstration, nous allons le voir, mais surtout la rhétorique fait aussi appel à autre chose que le discours en lui-même, qui sont des orientations vers le public, ses émotions et la reconnaissance que ce public peut avoir de l'auteur de la parole discursive. Voilà.
Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est la philosophie là-dedans. Que alors, fait-elle du discours rhétorique ?
Oui, alors la philosophie a été confrontée. La philosophie qui est en germe, parce qu'il faut savoir que la rhétorique et la philosophie, peut-être, se constituent, on pense à l'époque de Platon, au 5e siècle de la Grèce, et surtout de l'Athènes classique, la philosophie se constitue en même temps que la rhétorique. Bon, par exemple, le mot philosophie apparaît chez Platon d'une manière tout à fait inaugurale. Hein. Il s'agit essentiellement, comme nous le savons tous, d'un savoir qui concerne la sagesse humaine. Hein. Alors que la rhétorique, au même moment, rivalise avec elle. Donc, il y a une rivalité possible entre rhétorique et philosophie. Alors, nous voyons bien cette rhétorique passée au crible, en quelque sorte, de l'entretien dialectique qui est le propre de la première philosophie, celle de Socrate, dans un dialogue de Socrate dont nous allons parler.
Oui, alors, Socrate face à Gorgias.
Voilà. Oui, oui. Alors, dans un premier temps, je vous exposerai les grandes lignes du début d'un dialogue que Platon consacre à Gorgias, hein, ou plutôt que de ce dialogue où Socrate, très habilement, très astucieusement, mais d'une manière aussi très civile, Socrate s'adresse à Gorgias. On ne peut pas ne pas imaginer qu'il y a malgré tout une certaine complicité entre les deux. Il s'agit d'une opposition qui Socrate démolit toutes les prétentions de la rhétorique, mais ça se fait avec courtoisie. Voilà. Il n'y a pas de polémique véhémente. Ça, c'est tout à fait important et ça montre aussi la sagesse de Socrate. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai justement à l'analyse de la rhétorique, et ça je trouve que c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a des ouvertures possibles vers l'art du discours aujourd'hui de la part d'Aristote. Car le grand texte sur la rhétorique, c'est celui d'Aristote, bien sûr. Je pense dans la seconde partie, j'en traiterai de manière précise. Alors l'intérêt du texte d'Aristote, c'est qu'il fait fond sur ceci que la rhétorique est instituée. La rhétorique n'est pas simplement de la parlotte, c'est une pratique dont nous allons voir qu'elle est art ou science, mais aussi enseignement, mais c'est une pratique instituée. C'est pas du tout latéral, exotique, bien que le personnage de Gorgias soit d'une certaine manière exotique. Ça transparaît tout à fait dans les dialogues de Platon. Mais en tout cas, la rhétorique est instituée. Alors, elle est instituée dans un régime qui est un régime où il faut obtenir, il est nécessaire en politique d'obtenir l'assentiment du peuple. Hein. Donc, le cadre...
C'est toujours la démocratie.
Voilà, le cadre institutionnel, je dirais au sens large, est bien celui de la démocratie. Et le modèle de la démocratie, c'est déjà Athènes. Quoi qu'on pense, par ailleurs, de cette curieuse démocratie pour nous.
Hein.
Alors, cette idée... qu'il faille convaincre, persuader, convaincre. Alors, est-ce qu'elle a des effets encore aujourd'hui? Est-ce que les analyses d'Aristote ont encore un intérêt pour nous? Bien, on ne peut pas ne pas oublier aussi que, par exemple, toute notre économie est fondée sur ces tentatives de persuasion qui sont celles de la publicité. Avec, en publicité, un recours à des slogans, à des incitations à désirer tel ou tel objet, après tout, on n'est pas très très loin, nous ne sommes plus dans le champ politique, nous sommes dans le champ économique. Alors, le champ économique, tout de même, il a un rôle, parce que, juste un tout petit mot, qui donne une ombre quand même à la sérénité de la rhétorique, Gorgias vient de Sicile, et ce sont les Siciliens, plusieurs avant Gorgias, ce sont les Siciliens qui ont, entre guillemets, inventé la rhétorique. Pourquoi ? Parce qu'après la chute des tyrans, au VIe siècle, il y a eu des litiges sur les propriétés terriennes. Les propriétés terriennes avaient été confisquées par les tyrans et les propriétaires initiaux voulaient évidemment les récupérer. D'où vraiment la nécessité absolue de plaider les causes. C'est tout de même assez intéressant de savoir que la rhétorique n'a pas commencé autrement que par un souci d'intérêt concernant les biens fonciers. Hein? Donc nous ne sommes pas tout à fait non plus, à l'origine au moins, dans une pratique tout à fait libre.
Puis, j'insiste sur ce que vous avez dit, il y a toujours, dans la philosophie, les textes anciens ont toujours un écho dans l'actualité.
Oui, et puis cette... bipartition entre la rhétorique et la philosophie, on peut dire qu'elle persiste. Alors, la philosophie prend acte de la force de la rhétorique. C'est vraiment une concurrence tout à fait forte, tout à fait effective. Et Socrate, qui inaugure en quelque sorte le genre philosophique avec ses dialogues, avec sa mise en dialogue de sa pensée, Socrate donc passe au crible, il n'y a pas d'autre mot, passe au crible, point par point, toutes les prétentions de la rhétorique, pour les défaire. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a la possibilité de la part des philosophes, de Socrate à un moment, ou de Platon, son disciple, est-ce qu'il y a la possibilité pour eux d'imaginer une rhétorique qui serait tout de même, je dirais, influencée par la rigueur de la philosophie? Où réside l'opposition essentiellement entre rhétorique et philosophie? La rhétorique vise à rendre vraisemblable, je dirais, ses conclusions, ses démonstrations, ses argumentations, alors que la philosophie vise le vrai. Et le vrai n'est peut-être pas de ce monde, ce que je vais essayer de démontrer à partir justement d'une lecture, j'y viens, de la lecture de la première partie du dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias.
d'écouter sur Radio Alliance Plus, dans cette émission 1, l'art du discours, par Françoise Gernot. Vous venez donc d'écouter une musique d'Albéniz, Asturias, et on vous expliquera peut-être plus tard pourquoi ce choix. Et Françoise, donc, vous en étiez à la lecture d'extraits du Gorgias de Platon.
Oui, eh bien, en lisant ce dialogue de Platon, vous savez que Platon, essentiellement, nous présente des dialogues, quelques lettres, et ses cours ont disparu. La prise en note de ses cours a disparu. Entre parenthèses, c'est le contraire pour Aristote. Je n'ai pas le temps d'en parler. Eh bien, la rhétorique, ou plutôt le personnage qui l'incarne de manière si fracassante, Gorgias, est interrogé par Socrate. Socrate, à travers la personnalité de Gorgias, passe au crible, comme je disais tout à l'heure, soumet à la critique, quoi donc ? Eh bien, la rhétorique. La première intervention de Socrate apparaît après la présentation, disons, de la scène. Gorgias, nous le savons, a été, je le rappelais tout à l'heure, a été donc commis par sa ville en une ambassade à Athènes. Mais la scène à laquelle nous assistons, cette scène de dialogue très dense, concerne un séjour ultérieur. Nous sommes, alors je vais vous donner la date, il est vraisemblable que Gorgias soit venu à Athènes en 427 avant notre ère, qu'il soit revenu en 407, et la rédaction du dialogue serait autour des années 390 avant notre ère. Enfin bon, c'est pas très important. Alors, que s'est-il passé ? Socrate, comme souvent, arrive après la bataille. C'est l'expression même. Que s'est-il passé avant que nous assistions à cet échange tout à fait fabuleux et décisif entre Socrate et Gorgias? Eh bien, Gorgias vient de s'adresser à un public de jeunes gens qui visent vraiment à apprendre la rhétorique parce que pour eux, c'est l'art qui leur permettra de vaincre l'adversaire dans les débats public et en particulier lorsqu'il s'agit du discours politique. Donc on voit très bien que déjà la rhétorique a une efficace, mais une utilité qui relève encore une fois de, comment dire, qui relève des intentions d'une classe de jeunes gens, en général assez brillants, et des profils de carrière. Voilà.
Donc, oui, mais qui se destinent peut-être à être avocat aussi, pas que politique.
Pas,
au point de départ, non.
Non, pas du tout à Athènes, à Rome.
Alors,
entre parenthèses,
des fonctions
entre parenthèses, entre parenthèses, l'orientation de la rhétorique sous, c'est évidemment plus compliqué que ça, comme nous allons le voir avec Aristote. Mais l'orientation de la rhétorique est fondamentalement politique à Athènes. Elle est judiciaire à Rome. Malheureusement, je n'ai pas le temps de dépouiller la merveilleuse réinterprétation de l'art oratoire par Cicéron, à partir d'ailleurs d'Aristote, qui est si décisive pour la culture romaine.
C'est pour ça que nous avons mis la statue de Cicéron en visuel.
Oui, j'ai proposé la station de Cicéron pour montrer comment cette rhétorique avait eu une excellence aussi, un rebond d'excellence à Rome. Voilà. Alors, Gorgias vient d'étaler de manière magnifique, stylistiquement probante, son talent d'orateur, précisément, pour séduire de futurs élèves, de futurs disciples. Ce type de discours, c'est un discours long, un discours d'apparat qu'on appelle en grec l'épidéixis. Lors de l'épidéixis, il s'agit encore une fois de présenter toutes les ressources de persuasion dont son art est capable. Et ce qui caractérise Gorgias, c'est justement son style, le caractère absolument magnificent de son style, des figures de style qu'il utilise, et en particulier, il utilise la métaphore. Autrement dit, il y a toujours aussi une esthétique sous-jacente au discours rhétorique, ce qui laisse penser aussi que la littérature a peut-être pour lointaine origine cette rhétorique de Gorgias. Alors, allons-y. Donc, Socrate entend soumettre Gorgias, c'est-à-dire son art, à, disais-je, un examen critique, et cela je me répète, pardon, sous la forme d'un dialogue, et un dialogue caractérisé donc par un, je disais un criblage dialectique. Un criblage, ça veut dire que c'est point par point que Socrate avance sa mise en question de la rhétorique. Impitoyable, hein, c'est impitoyable. La première question que pose Socrate à Gorgias est celle de la définition. Alors, dans la pensée socratique reprise par Platon, son disciple, on ne peut commencer à penser que si l'on définit avec rigueur ce dont on parle. Pourquoi ? Parce que ce dont on parle, la définition doit faire signe vers une idée pure de la chose dont on parle. Mmh. Donc, il ne s'agira pas simplement de déployer, comme Gorgias voulait le faire, toutes les chances que donne la rhétorique pour dominer finalement le peuple. Non, il s'agit de définir, encore une fois, ce à quoi la rhétorique fait appel en tant qu'elle n'a de sens que par rapport à une pure idée de son efficace, c'est-à-dire de son caractère de science ou de technique. Alors voilà, tout commence très très simplement. Hein. Calliclès, donc un ami athénien qui reçoit, c'est l'hôte de Gorgias, se félicite d'avoir entendu Gorgias. À ce moment-là, Socrate lui dit « Tu es fort aimable, Calliclès. » Calliclès vient d'inviter Socrate à s'admirer avec lui, Gorgias. « Tu es fort aimable, Calliclès, dit Socrate, mais Gorgias consentirait-il à causer avec nous ?» Il y a toujours quelques disciples. Hein. « Car mon dessein est de lui demander quelle est la vertu propre de son art et quelle est au juste la chose dont il fait profession et qu'il enseigne. » Bon, là, on commence à la base. Hein, oui. On commence à la base. Hein. Quant au reste, il pourra, comme tu le dis, nous en donner le plaisir une autre fois, c'est-à-dire le plaisir de reprendre les discours longs. Alors la différence, évidemment, c'est que le discours rhétorique est long, alors que la dialectique, c'est-à-dire l'échange critique de la parole de l'autre par Socrate, suppose des questions et des réponses extrêmement brèves. C'est très, très scandé. Eh bien, Gorgias répond. Gorgias, ou plutôt son disciple, a déjà énoncé, en éludant la question de l'essence que pose Socrate, a déjà énoncé qu'il n'y avait rien de plus beau que, précisément, l'art de la rhétorique. Rien de plus beau. Mais cette réponse ne satisfait pas Socrate, puisqu'il s'agit, d'une part, d'une réponse naïve, et d'autre part, une réponse qui est à côté de la question de la définition de ce qu'est en nature la rhétorique. Hein? On ne te demandait pas quelle est la qualité de la rhétorique, on te demandait qui était Gorgias et quel nom il fallait lui donner. Dans les exemples précédemment posés par Chéréphon, donc un autre, tu lui avais répondu avec justesse et brièveté. Dis-moi de la même façon quel est l'art de Gorgias et de quel nom nous devons lui donner à lui-même. Ou plutôt Gorgias. Dis-nous toi-même. Ça, c'est tout à fait intéressant.
Il interpelle. Oui.
C'est qu'il interpelle Gorgias et on écarte les disciples. Ou plutôt, Gorgias, dis-nous toi-même quel art tu exerces et comment, en conséquence, nous devons t'appeler. Mon art est la rhétorique, Socrate. Par conséquent, nous devons t'appeler orateur. Rhéteur, hein? Rhéteur en grec. On ne peut pas faire plus court. Remarque Socrate, et à partir de là commence évidemment toute une mise en question de la rhétorique. Alors d'abord, Gorgias affirme que en tant qu'art, à la différence d'autres, la rhétorique est l'art des discours, et des discours dont le discours est le principal. Alors par exemple, un médecin, lorsqu'il fait avaler des potions épouvantables, ou lorsqu'il incise au fer et au feu les blessures, a besoin tout de même de recourir à la persuasion, sans quoi évidemment le patient se dérobe. Eh bien, je dis cela parce que l'exemple existe. Le frère de Gorgias, Hérodikos, est médecin. Et Gorgias fait fort de dire, mais quand mon frère opère, ben, c'est moi. C'est moi qui convainc. Hein? Autrement dit, tout se passe comme s'il présentait la rhétorique comme supérieure à la médecine. Non pas accompagnement, mais supériorité par rapport à la médecine et à d'autres arts ou à d'autres techniques. Alors, la question que lui pose Socrate, c'est la question de fond, c'est la rhétorique. De quel objet est-elle la science? Et il emploie le mot épistémé, le mot de science. Eh bien, Socrate, donc, entend la réponse de Gorgias, je viens d'anticiper. La rhétorique, c'est bien cet art dans lequel le discours est le principe. Discours en grec, c'est logos. Alors, vous savez, la polysémie du mot logos en grec, ça veut dire la parole, ça veut dire le discours, ça veut dire la raison et ça veut dire aussi l'argument. Donc, nous sommes devant vraiment un concept très, très polysémique. Je vais m'avancer avec un double questionnement. Donc, Socrate demande à Gorgias quelle est la finalité de son art, de sa technique. Et nous verrons que cette finalité est là lieu dans la cité, et surtout Socrate interroge Gorgias pour déterminer s'il s'agit pour la rhétorique d'une science véritable et non pas d'une vague technique empirique visée à donner du plaisir pour obtenir le sentiment de la foule.
À bientôt pour la seconde émission L'art du discours.
Pour partager vos événements à l'antenne, agenda@radioalliance-plus.fr.